Juste après le journal, on va s'intéresser à la qualité de l'eau potable, de l'eau qui coule dans nos robinets et présente dans nos bouteilles. Et l'on va s'interroger sur la responsabilité des pouvoirs publics dans ce domaine. Mais pour l'heure, sur France Culture, il est 19h. Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir.
Bonsoir. Donald Trump exige ce soir une capitulation sans condition de l'Iran. « Nous contrôlons complètement l'espace aérien iranien », déclare aussi le président américain, qui multiplie les messages sur sa plateforme Truth Social. Il affirme savoir exactement où se trouve le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, tout en précisant qu'il n'est pas question de l'éliminer pour le moment. Mais concrètement, que comptent faire les États-Unis? Ces dernières heures, depuis son départ précipité du G7, la position de Donald Trump est restée très fluctuante, Benjamin Ely.
Dans l'avion qui le ramenait vers Washington, Donald Trump a pris quelques minutes pour répondre par bribes aux questions des journalistes sans trancher clairement entre la recherche de l'apaisement et l'engagement militaire des États-Unis dans ce conflit. Les seuls à disposer de la bombe nécessaire pour frapper efficacement le site nucléaire iranien de Fordo, construit au cœur d'une montagne. Donald Trump dit rechercher une fin réelle, pas un cessez-le-feu. Ajoutant qu'il faut un abandon complet de l'Iran, sans dire sur quoi précisément. Assurant aussi qu'ils n'auront pas l'arme nucléaire. Le président américain a rejoint depuis la salle de crise de la Maison-Blanche pour consulter son conseil de sécurité. Jusqu'à présent, en multipliant les déclarations évasives et parfois contradictoires, il fait au moins passer un message. Toutes les options sont sur la table.
Et les affrontements se poursuivent entre Israël et l'Iran. Téhéran menace d'intensifier ses attaques dans les prochaines heures, tandis que l'armée israélienne dit avoir tué Ali Shadmani, qui occupait les fonctions de chef d'état-major iranien en temps de guerre. L'Ukraine a connu la nuit dernière l'une des pires attaques russes contre la capitale, Kiev. Le dernier bilan fait état de 10 morts, dont un Américain. Le président Zelensky, présent au sommet du G7 au Canada, tente d'expliquer à ses alliés à quel point son pays a besoin d'un soutien accru. L'immense panne électrique qui a paralysé la péninsule ibérique le 28 avril a été provoquée par des surtensions ayant entraîné une réaction en chaîne. C'est ce qu'explique le rapport publié par le gouvernement espagnol, qui pointe des erreurs d'appréciation du gestionnaire du réseau électrique et de certaines entreprises. En France, l'Assemblée nationale a finalement adopté le projet de loi de simplification et sa mesure controversée d'abrogation des zones à faible émission. Le projet de loi a été adopté par 275 voix contre 252. Il doit maintenant être examiné par une commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs qui devront s'accorder sur une mouture commune. À 21h dans Culture de l'Info, le podcast de la rédaction, Stanislas Vazak reviendra sur la difficile réparation des conséquences des essais nucléaires français dans le Pacifique. Tout de suite sur France Culture, c'est la seconde partie de Questions du soir, Quentin Lafay.
Absolument, Aurélie Kiefer. Et une question, l'État est-il défaillant en matière de contrôle des eaux?
France Culture, Questions du soir, Quentin Lafay.
En janvier dernier, le chercheur et enseignant Gaspard Lemaire faisait paraître une étude de données impressionnante sur un scandale sanitaire peu connu du grand public, celui de la contamination des eaux au CVM, le chlorure de vinyle monomère, un gaz cancérigène contenu dans les tuyaux en PVC. Cette affaire s'ajoute donc à d'autres scandales du même ordre, présence de PFAS ou résidus médicamenteux dans les eaux potables, scandale Nestlé mis à jour notamment par la cellule investigation de Radio France. Alors nos eaux sont-elles plus polluées qu'elles ne l'étaient? Comment l'État a-t-il fermé les yeux sur certains de ces risques sanitaires? Bonsoir Gaspard Lemaire.
Bonsoir.
Merci d'être présent ce soir. Vous êtes chercheur enseignant en droit de l'environnement à Sciences Po, doctorant en sciences politiques au sein de la chaire Earth, et vous écrivez votre thèse intitulée « Le paradigme de l'atrocité climatique à l'université d'Angers ». Merci d'être présent ce soir dans Questions du soir.
On est parti d'un seul document, c'était un bleu de RIM. Les RIM, c'est ce qu'on appelle les réunions interministérielles. Donc c'était une décision qui avait été prise en réunion interministérielle. Et ça c'était en février 2023. Et à ce moment-là, le gouvernement français avait décidé d'accorder une dérogation à l'entreprise Nestlé pour utiliser certains filtres non conformes. C'est comme ça que c'est écrit. On a découvert une vaste affaire effectivement de fraude aux eaux minérales. Et le principal acteur de cette fraude, c'est la multinationale
multinationale Nestlé qui, depuis en fait les années 90, utilise dans ses usines des filtres pour traiter des eaux qui sont vendues comme des eaux minérales naturelles, qui sont donc censées être des eaux pures, hein, à la pureté originelle, et qui sont en fait traitées parce qu'elles sont contaminées, notamment par des bactéries, mais aussi par des pesticides.
La journaliste Marie Dupin de la cellule d'investigation de Radio France, elle était l'invitée il y a quelques semaines de Questions du soir sur France Culture, évidemment. Gaspard Lemaire, 30% des marques du groupe Nestlé avaient recours, selon cette enquête, à des systèmes de purification interdits ou illégaux, allant à l'encontre de leur label dit eau minérale naturelle. Du point de vue, justement, de la qualité des eaux que l'on consomme, comment est-ce que vous analysez cette affaire ?
Cette affaire, elle est assez étonnante, en fait, parce que cette pratique, elle a perduré extrêmement longtemps. C'est pas une pratique qui serait tout à fait récente. En fait, dès le début des années 2000, Nestlé a recours à des techniques de décontamination avec des charbons actifs, des filtres ultraviolets, ce qui est effectivement complètement illégal quand on vend une eau qui est censée être une eau minérale naturelle. Pourquoi ils font ça? Bah parce que effectivement l'eau n'est la qualité de l'eau en fait n'est plus garantie. Il y a des phénomènes climatiques qui conduisent à des assèchements des nappes, qui conduisent à leur tour à la prolifération des bactéries. On a des fuites de pesticides à tous les niveaux, peut-être aussi des problèmes de gestion. Mais en tout cas, ce qui est absolument étonnant, c'est que ce soit complètement passé sous les radars pendant assez longtemps.
Lorsque vous dites la qualité de l'eau n'est plus garantie, à quand datez-vous ce tournant-là justement sur la qualité des eaux qui traversent la France et par ailleurs sur la façon dont les industriels s'en servent et la distribuent ?
Bah, c'est une question qui est assez difficile parce qu'en fait on manque cruellement de données historiques. Les scandales ils sortent les uns après les autres, mais on n'a pas d'archives pesticides qui nous permettraient de suivre l'évolution des niveaux de pesticides dans l'eau depuis très très longtemps. Donc on n'a pas vraiment de visibilité sur le passé. On a des problèmes de données à tous les niveaux en fait.
L'autre fait évidemment marquant de cette affaire Nestlé, c'est l'implication tacite ou non d'ailleurs de l'État, de différents responsables publics de haut niveau. Là aussi, comment est-ce que vous analysez cette affaire à travers ce prisme sur l'implication de l'État, sur la responsabilité aussi de différents ministères et de différentes agences de l'État ?
Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une alerte en fait qui a été lancée en 2019 par quelqu'un qui travaillait dans une usine où les pratiques étaient tout à fait douteuses. Cette alerte, elle a conduit à une enquête de la Direction générale de la consommation et cette enquête dure 1 an, 2 ans. Et là, Nestlé va de façon préventive aller avertir le ministère de l'Industrie, dire voilà. On fait des choses qui sont illégales, on met des filtres, on utilise des ultraviolets, il faut pas le faire. Mais on a un plan, on va faire autrement très prochainement. On va mettre des filtres à 0,2 microgrammes, ce qui est illégal aussi. Et Nestlé dit à la ministre de l'époque, Agnès Pannier-Runacher, si on fait pas ça, ça va être des emplois perdus de partout. Il faut vraiment nous laisser le faire, même si ça a pas l'air d'être très légal. Et la ministre réfléchit, négocie un petit peu et dit bah d'accord, on va vous aider à faire ça. Ça, c'est en 2021. Elle lance quand même une enquête indépendante, mais elle n'avertit pas le procureur des pratiques illégales de Nestlé. Et surtout, 2 ans plus tard, la méthode qui est toujours illégale d'utiliser des microfiltres à 0,2 microgrammes qui permettent d'éliminer les bactéries, les matières fécales aussi qui sont présentes dans cette eau de source, ou plutôt cette eau minérale naturelle, eh bien, ces pratiques sont validées par une équipe interministérielle qui implique les cabinets du Premier ministre, du ministère de l'Économie, du ministère de l'Environnement. Donc, il y a une couverture totale.
Ce qui est frappant, c'est que la logique sanitaire passe tout à fait au second rang, que la démarche, cette fois-ci, économique, financière, que l'intérêt de préserver de l'emploi, hein, c'est toujours le chantage qui est formulé par certains industriels et certaines entreprises, prévaut sur absolument tout le reste.
Sur tout le reste, non seulement sur les considérations environnementales, mais aussi sur la protection de l'intérêt des consommateurs, puisque ce qu'il s'est passé, c'est que l'entreprise Nestlé a vendu pour 3 milliards d'euros de bouteilles d'eau qui étaient présentées comme de l'eau minérale, qui était en fait de l'eau du robinet, de l'eau qui avait été filtrée, de l'eau qui avait été travaillée, et les intérêts des consommateurs n'ont été protégés à aucun moment.
L'association UFC Que Choisir, qui représente les intérêts notamment des consommateurs, a déposé plusieurs plaintes. Là aussi, que peuvent ce type de démarche, que peuvent les consommateurs pour se défendre face à ce type de scandale que l'on apprend dans la presse ?
Alors, il y a une plainte qui date de 2024 et on a déjà eu un premier résultat. Elle était déposée auprès du procureur d'Épinal et le procureur a signé en fait avec l'entreprise Nestlé ce qu'on appelle une convention judiciaire d'intérêt public. Donc voilà, Nestlé a gagné à peu près 3 milliards en vendant ses bouteilles frauduleuses. Et le procureur a proposé à Nestlé de, même pas de plaider coupable en fait, simplement de payer une somme pour compenser voilà, le dommage, le tort porté aux consommateurs. Et cette somme, elle est de 2 millions d'euros sur les 3 milliards qui ont été engrangés. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, comme si on avait un braqueur qui va dans une banque, il prend 3 milliards, et puis bon, il confesse quand même une partie au moins de son méfait quelques années après, et on lui dit, bon, c'était pas bien, mais vous êtes de bonne volonté, on va s'arranger, vous rendez un peu moins de 1% finalement du butin, et vous repartez libre, et vous n'aurez aucun problème. Donc le droit, il n'est pas toujours suffisant. Heureusement, il y a d'autres démarches juridiques qui ont été entreprises depuis et elles pourront peut-être amener à des conséquences un peu plus intéressantes que ça.
La comparaison est osée, Gaspard Le Maire, mais elle a le mérite d'être claire. L'autre actualité qui concerne les eaux minérales que l'on consomme au quotidien, c'est la modification de la définition de ce qu'on appelle les PFAS, c'est-à-dire ces polluants éternels qui traversent là aussi l'ensemble des eaux minérales et au sein des robinets que l'on consomme. Quel est l'enjeu autour de la modification de cette définition? Pourquoi un flou d'ailleurs entoure la définition de ces produits-là?
Alors, je ne suis pas spécialiste de la question des PFAS, donc je ne vais pas vous répondre en m'aventurant sur un terrain que je ne maîtrise pas. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que cette question de la définition des concepts, de la définition des seuils, de la définition des indicateurs, elle est absolument cruciale en matière de droit sanitaire, en matière de droit de l'eau, et ces techniques de changement assez insidieuses, assez obscures pour les citoyens, qui sont difficiles à retracer, on les observe en permanence. On les a observées, par exemple, avec les pesticides, avec le plan Ecophyto. Voilà, il fallait faire baisser dans 10 ans de 50% le niveau de pesticides. Ça n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qu'on propose 20 ans plus tard? On propose de changer d'indicateur. On change d'indicateur et là, miraculeusement, alors que le niveau d'usage de pesticides avait stagné, il va baisser de 50% très brutalement à partir du moment où on change d'indicateur. Donc voilà, au lieu de régler le problème, on change les définitions, on change les indicateurs et ça, c'est évidemment une manière de faire perdurer l'insécurité sanitaire.
Vous avez parlé très largement, Gaspard Le Maire, des effets, j'allais dire, généraux du réchauffement climatique sur la qualité des eaux, de l'impact aussi de l'utilisation croissante et du recours aux pesticides. Est-ce que la qualité de l'eau se dégrade d'une façon générale en France? Est-ce qu'il est de plus en plus dangereux, entre guillemets, de consommer au quotidien et sur le long terme les eaux distribuées par nos robinets? Ou bien, plus généralement, vous estimez qu'il existe une défaillance forte, importante des pouvoirs publics dans le contrôle justement de la qualité de ces eaux?
Je crois qu'en fait, on est en train de découvrir des pollutions qui sont extrêmement anciennes. L'usage de pesticides, voilà, il stagne et on se rend compte, on arrive à identifier de plus en plus de substances, des produits qui se transforment dans l'eau, qui étaient déjà là auparavant et qu'on n'arrivait pas à mesurer. L'enquête que j'ai menée sur le chlorure de vinyle monomère, c'était présent dès les années 1960. Les PFAS, l'usage, il n'est pas nouveau. C'est une substance qu'on commence à utiliser dans les années 1950. Donc c'est des découvertes qu'on fait, mais avec énormément de retard. Et ce qui est assez inquiétant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il doit y avoir énormément d'autres substances qui sont, voilà, peut-être déjà les investigations sont en cours à l'autre bout du monde, et ça arrivera en France 20, 30 ans plus tard, comme cela a pu être le cas avec les PFAS.
Qui contrôle les eaux aujourd'hui, Gaspard Le Maire? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la responsabilité unique de l'État?
Alors, pour ce qui est de l'eau potable, les responsabilités sont partagées entre l'État d'une part et en particulier la Direction Générale de la Santé ainsi que les agences régionales de santé, les ARS, qui ont une mission de surveillance générale, qui effectue tout un tas de mesures.
Et qui sont les agences déconcentrées au sein du territoire français, il y en a une par région.
Tout à fait. Et d'autre part, les fournisseurs d'eau sont aussi... ils font face à ce qu'on appelle une obligation de résultat en droit. Ils doivent garantir le caractère potable de l'eau. Et ça signifie que, voilà, eux aussi, ils sont en charge de faire des tests. Mais la difficulté, c'est que ces fournisseurs d'eau, ils sont extrêmement nombreux. Ce sont souvent des communes, des collectivités de communes. Parfois, c'est un prestataire privé, donc une entreprise. Mais il y en a énormément sur le territoire. Et À l'analyse, il apparaît que les défaillances locales de ces très nombreux acteurs, nécessairement, il y aura des difficultés ici ou là, surtout quand les moyens manquent, et c'est le cas quand le fournisseur d'eau est très petit. S'il y a une défaillance, eh bien, c'est à l'État de veiller à l'application de la loi, et il apparaît en pratique que cette obligation, elle n'est que rarement respectée.
Mais pour creuser justement ce que vous êtes en train de nous expliquer, Gaspard Lemaire, quand on écoute le discours, les discours de l'État au sujet de ces contrôles de la qualité des eaux, il renvoie, non pas systématiquement, mais quand même très très régulièrement, à la responsabilité des collectivités, à la responsabilité des communes, comme si c'était de leur ressort unique et comme si au fond l'État n'était pas garant de cette qualité. Alors comment le comprendre ?
Et je pense que cette technique qui permet de se défausser de ses responsabilités, elle opère au niveau environnemental, mais elle opère à un niveau beaucoup plus large, et elle est le témoignage d'un phénomène qui est la bureaucratisation en fait de nos sociétés. C'est-à-dire que on doit gérer tout un ensemble de tâches qui sont extrêmement complexes. Il faut diviser le travail, il faut diviser les tâches, il faut diviser les spécialités pour que le fonctionnement social puisse perdurer. Et cette division du travail, elle conduit à une dilution des responsabilités. Il y aura toujours un autre agent public, il y aura toujours un autre service sur lequel rejeter la faute. C'est un problème, mais fort heureusement aussi, dans les contentieux, ça peut être d'une aide précieuse, parce que chaque administration va tenter de se défausser de ses responsabilités, et donc elle va fournir des informations assez intéressantes vis-à-vis des manquements qui ont pu être commis par d'autres parties de l'administration ou par des services déconcentrés ou par une collectivité locale.
C'est peut-être pratique pour les chercheurs, et j'imagine que vous le dites avec une certaine ironie, pratique aussi dans certains procès, dans certains conflits, mais tout de même, les responsabilités de l'État, pour qu'elles puissent être effectives, il faut quand même qu'elles soient logiquement, justement attribuées. On a du mal à comprendre que dans ce domaine, un flou règne justement sur la répartition des compétences.
Alors le flou, il règne assez rarement sur le plan légal. Le flou, il règne dans les discours. Il est entretenu de façon apparente, de façon illusoire. Mais dès lors qu'on arrive au niveau du contentieux, ce flou, il peut rapidement se dissiper. Et c'est d'ailleurs la fonction du juge et de l'avocat que de le dissiper.
On va parler, Gaspard Lemaire, maintenant de CVM, c'est-à-dire le chlorure de vinyle monomère sur lequel vous avez travaillé. Je voudrais vous faire entendre une association de comités citoyens en la personne de Catherine et Hervé Conraud. Ils nous expliquent de quoi il s'agit. Ils ont participé à envoyé spécial daté du 16 janvier dernier.
Le chlorure de vinyle monomère, donc le CVM. Tout le monde en a un petit peu. Puis le dernier, au bout de la canalisation, on a plein. Voilà. Donc c'est fauteur de deux cancers, deux types de cancers du foie. C'est inquiétant.
Complètement. Hein.
Non, voilà. Donc.
Vous n'étiez pas du tout au courant.
Non.
Ah ben non. Vraiment, j'apprends aujourd'hui. Quoi. Je savais pas du tout. Et pourtant, voilà, entre voisins, on se connaît un peu, mais on s'avait jamais été évoqué. Quoi. Et mon rôle maintenant, est-ce que moi j'ai quelque chose à faire
Alors oui, ce que vous pouvez faire, c'est demander à ce qu'il y ait une analyse d'eau pratiquée à votre robinet de cuisine. Donc on a préparé des modèles de lettres que vous pouvez reprendre ou non, hein, qui sont adressés aux responsables de la qualité de votre eau.
Là, on est sur des valeurs très au-dessus. 1,39, quand même problématique, sachant qu'en plus, la personne au 1,39... c'est une maison qui va être vendue. Donc, est-ce que les nouveaux propriétaires ont conscience qu'ils ont potentiellement de l'eau qui n'est pas potable ?
Comment vous êtes-vous retrouvé, Gaspard Lemaire, si je puis dire, dans cette affaire, en tout cas présent, pour la décortiquer et tenter de comprendre ses ramifications nombreuses ? On y reviendra.
Alors, tout est parti de ce qui était en apparence un fait divers. Dans une commune du Loiret, à Châtenois, les habitants étaient confrontés à deux types de problèmes. Ils étaient confrontés à une pollution de leur eau au manganèse, qui est une substance visible dans l'eau, qui est marron. Et c'est très important, parce qu'en fait, certains habitants ont fait prendre des bains à leurs enfants, et ils ont diffusé sur les réseaux sociaux des images d'enfants qui prenaient quasiment ce qui était des bains de boue. Ça a été très médiatisé, parce que c'était visuellement parlant. Et dans le même temps, ils étaient confrontés à une autre substance toxique qui, elle, est invisible, qui est inodore, qui est chlorure de vinyle monomère et qui se trouvait par hasard être aussi présente dans leur eau du robinet, j'oserais pas dire eau potable, puisqu'elle ne l'était pas. Donc tout ça a donné lieu à une couverture médiatique, à un article qui a été publié dans le journal Le Monde. J'ai lu cet article et j'étais un petit peu perplexe parce que donc il était question de ce CVM que je ne connaissais pas, substance qui était définie comme cancérogène certain. Dans le même temps, le ministère de la Santé avait l'air de dire que ce n'était pas très grave de boire du CVM. Et pourtant, il était interdit aux habitants du village de consommer l'eau contaminée. Donc c'est cancérogène, mais c'est pas grave, il ne faut pas consommer l'eau. J'étais un petit peu perplexe et j'ai décidé d'enquêter.
On va revenir sur le rôle du ministère de la Santé, mais présentez-nous, j'allais dire, la géographie de la diffusion de ce CVM dans les eaux françaises. Ce sont les petites communes en particulier qui sont concernées parce que les eaux y stagnent. Ce sont certaines régions d'Île-de-France par ailleurs.
Alors l'Île-de-France est plutôt épargnée par
cette... Non, ce sont certaines régions de France.
De France, ce sont effectivement certaines régions françaises, de l'ouest de la France notamment. Mm-hmm. C'est principalement le cas de la Nouvelle-Aquitaine et de la Normandie, qui sont vraiment les plus touchées, mais aussi dans une moindre mesure du centre-Val de Loire, ainsi que de la Bourgogne-Franche-Comté par exemple. Et ensuite, au sein de ces régions, ce sont effectivement les plus petites communes où en fait il y a moins d'habitants. S'il y a moins d'habitants, il y a moins de demandes en eau. S'il y a moins de demandes en eau, l'eau stagne dans les tuyaux. Et voilà, par un phénomène chimique qui, pour le coup, est assez intuitif, l'eau a plus de temps pour se charger de ce CVM. Et donc, c'est souvent au niveau des communes très rurales que les contaminations sont les plus importantes.
Vous avez mentionné le ministère de la Santé. Il joue dans ce scandale un rôle absolument clé, puisque vous avez découvert, au fil de vos travaux, au fil de vos recherches, que ce ministère avait dissimulé des données.
Effectivement, donc je me suis intéressé à cette question et il y a des données publiques, il faut le dire. Elles sont sur le site Open Data du gouvernement, qui sont des données du ministère de la Santé.
Qu'est-ce qu'on y trouve justement dans ces données publiques ?
On trouve des données brutes. Des données brutes, on ne peut pas les déchiffrer si on n'est pas informaticien. Donc moi, je n'ai pas réussi à y accéder par manque de compétences. J'ai demandé aux agences régionales de santé, toujours elles, de me communiquer leurs données à elles sous un format clair. Et là, évidemment, j'ai découvert qu'il y avait des milliers de contaminations qui avaient été identifiées en France. Mais ce qui a été très intéressant dans un second temps, et c'est un travail que je suis en train de mener avec justement l'association Comité Citoyen qu'on a entendu tout à l'heure et qui est pionnière sur le sujet du CVM, on a confronté la base de données du ministère de la Santé et ce que m'ont transmis les ARS. Et ce que l'on voit, c'est que quand on déchiffre les données du ministère, elles ne recensent que 25% des contaminations qui ont été enregistrées par les ARS. Il en manque les trois quarts.
Qu'est-ce que répond le ministère de la Santé lorsque vous les contactez ou tentez de les contacter ?
Là encore, c'est l'association Comité Citoyen qui a fait cette demande et la réponse du ministère était extrêmement instructive. Sa réponse était de dire que le CVM, finalement, quand on fait des analyses, le niveau de CVM varie énormément entre un logement et le logement qui peut être situé quelques mètres plus bas. De sorte que la teneur en CVM dans un logement n'est pas représentative de l'ensemble du réseau. Et le ministère nous a expliqué que pour que tout ça soit plus représentatif, il a sélectionné un certain nombre d'échantillons, il a sélectionné un certain nombre de mesures. Autrement dit, pour que les mesures soient plus représentatives, on a enlevé les trois quarts des contaminations qui avaient été effectivement recensées.
Après ces mois, Gaspard Lemaire, de travaux, justement, de fouilles pratiquement, comment est-ce que vous comprenez cette position du ministère de la Santé ? A priori, le ministère n'a pas d'intérêt direct, n'a pas d'intérêt financier, il n'est pas une entreprise, il n'est même pas non plus, j'allais dire, le ministère du budget ou Bercy qui aurait des intérêts en matière d'emploi à faire valoir. Pourquoi le ministère de la Santé ne donne pas l'entièreté des données et ne permet pas de déchiffrer celles qui sont rendues publiques ?
Il y a une première chose qui est que c'est extrêmement difficile de dire à des centaines de milliers de Français, puisque c'est l'ordre de grandeur dont on parle aujourd'hui, qu'ils ont consommé, pour certains d'entre eux, pendant 50 ans, une eau qui contenait une substance cancérogène. C'est très dur de l'avouer. Voilà, la puissance publique savait que le CVM c'était dangereux. Dès 1978, au niveau européen, on interdit de poser des tuyaux qui contiennent cette substance. Parce que le risque est connu, parce que le caractère cancérogène a été identifié, parce que le phénomène de relargage dans l'eau, il a également été identifié. Et il ne se passe pas grand-chose pendant à peu près 40 ans.
Donc c'est la difficulté à reconnaître une erreur ou la difficulté peut-être à reconnaître une inaction à minima ?
Ça, effectivement, c'est un premier point, c'était très difficile de le faire. Dans un deuxième temps, il faut voir que le ministère de la Santé n'est peut-être pas le ministère du budget, mais qu'ils font tout de même l'un et l'autre partie d'un même gouvernement. Et en l'occurrence, si on veut régler le problème du CVM, il faut changer les canalisations. Et changer un kilomètre de canalisation, ça coûte au minimum 100 000 euros. Maintenant, on parle de centaines de milliers de kilomètres de canalisation contaminée. Alors, il ne faut pas tout changer parce que si le contact entre l'eau et le tuyau, on l'a dit tout à l'heure, n'est pas trop long, ça peut aller. Mais il faut quand même investir des milliards, des dizaines de milliards d'euros. Et il se trouve qu'en fait, on a un taux de renouvellement naturel des canalisations, c'est-à-dire que quand elles ont bien vieilli, on les remplace de toute façon. Et l'idée du ministère, c'est de faire un calcul un petit peu cynique, qui est de dire... On voit pas des gens tomber comme des mouches en ce moment. Il y a peut-être pas mal de cancers du foie, mais ça reste discret. En tout cas, on n'a pas mené d'études épidémiologiques, donc on ne sait pas où ils sont exactement. On va lisser les dépenses. On va attendre que ça se passe. On fait des changements, et des changements de canalisation sont faits depuis plus de 10 ans maintenant. Ça a lieu. Mais simplement, ça ne va pas très vite et ça permet de ne pas engager des dizaines de milliards d'un coup parce qu'on ne les a pas de toute façon.
Pourquoi et comment, surtout, la notion même de préjudice écologique vous paraît-elle pertinente pour aborder non pas ces problèmes, mais la gestion de ces problèmes et la réaction collective à avoir ?
Alors, la notion de préjudice écologique, elle vient de la jurisprudence dans les années 90. C'est le juge qui a trouvé ça. On parle de préjudice écologique quand il y a un dommage qui a été porté à un écosystème, à ses fonctions, à ses éléments, ou qu'il y a une perte de jouissance de l'environnement pour certains êtres humains. Ça vient de la jurisprudence. Ça a été intégré au droit français en 2016 dans le cadre de la loi sur la reconquête de la biodiversité. Et c'est une arme qui est extrêmement puissante. Dans le cas du CVM, ça n'a pas tellement lieu d'être parce que on ne parle pas spécialement d'écosystème, on parle de nos organismes humains à nous. Mais en revanche, aujourd'hui, en fait, il y a énormément d'activités qui sont autorisées par l'État français qui conduisent à la destruction ou à la dégradation d'écosystèmes. C'est le cas avec l'épandage de 65 000 tonnes de pesticides par an en France, ça fait un tiers de la consommation européenne. C'est le cas dans l'affaire du chlordécone aux Antilles, c'est le cas avec...
Qui était utilisé, on le rappelle, pour les bananeraies, justement.
Et pour... Absolument, pour lutter contre le charançon de la banane, et qui est un pesticide persistant qui est présent dans les sols pour des centaines, peut-être des milliers d'années. Voilà, en fait, il y a toutes sortes d'activités, les résidus médicamenteux aussi, où les écosystèmes ont été dégradés. Et quelques actions ont été menées. Dans le cadre des pesticides, l'État a été condamné une fois à la suite de plaintes d'associations environnementales. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes qui sont concernées, en tout cas les personnes publiques comme les collectivités, qui sont concernées par une dégradation de leur écosystème, elles peuvent envisager d'engager un recours contre l'État. Et là, on parle de milliers de communes, en fait, qui demain pourraient engager un recours contre l'État en raison de la pollution du fait des pesticides qui détruit de fait les écosystèmes, et c'est documenté scientifiquement.
Et dans le même temps, Gaspard Lemaire, j'ai le sentiment, en vous écoutant avec attention, qu'on est totalement dépassé presque par ce qui nous arrive, que ces outils, que notre rapport à l'eau, que ce qu'elle contient, nous a pratiquement ou effectivement dépassé, que philosophiquement, c'est même compliqué désormais d'aborder ce problème de politique publique avec sérénité.
Effectivement, il me semble qu'on fait face à un problème qui est majeur et qui n'est pas tellement discuté dans l'espace public, à savoir que l'on ne comprend pas, en tant que citoyen et en tant que corps politique, on ne comprend pas ce que l'on fait et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Il y a une double opacité. Il y a l'opacité de ce qui se passe sous nos pieds ou dans nos estomacs, qui est le fonctionnement de systèmes techniques extrêmement compliqués. On pourrait parler de boîte noire. Voilà, c'est des systèmes, on sait ce qui rentre, on sait à peu près ce qui sort, mais entre les deux... Tout le monde ignore, ou presque, ce qui se passe, sinon les experts. Et les révélations, parfois, elles mettent des décennies à arriver.
D'un mot, l'eau au robinet, de plus en plus compliquée de la boire, j'allais dire, d'une manière innocente. Ah, c'est à peu près pareil avec l'affaire Nestlé, s'agissant des bouteilles. Qu'est-ce que vous buvez, vous ?
Alors moi, je continue à boire de l'eau du robinet, puisque de toute façon, l'eau en bouteille de chez Nestlé, c'est aussi de l'eau du robinet qui est vendue 100 fois plus cher. C'est de l'eau qui a subi des filtrages, et simplement, elle est vendue à un prix exorbitant. Donc ça n'a pas l'air d'être tellement intéressant de l'acheter.
Nous n'avons pas tellement le choix. Merci beaucoup, donc, Gaspard Lemaire. Je rappelle que vous êtes chercheur et doctorant en sciences politiques au sein de la chaire Earth. Vous écrivez votre thèse sur le paradigme de l'atrocité climatique à l'université d'Angers. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Question du soir.
Merci à vous.
Vous écoutez France Culture.
France Culture présente Peacock, un film de Bernard Wenger.
Grüß Gott, Matthias von My Companion.
Besoin d'un amant cultivé pour impressionner votre entourage? D'un fils parfait pour forcer l'admiration de vos clients? Louez Matthias de My Companion. Il joue tous les rôles. Mais quand Matthias doit être lui-même, le véritable défi commence. Peacock, Une savoureuse comédie, le 18 juin au cinéma. Un film France Culture.
Merci à toute l'équipe de Questions du Soir. Stéphanie Villeneuve, Fanny Richer, Pascaline Bonnet, Bertie Bourdon, Roxane Poulain, Rodi Eken, Mathias Meji. À la réalisation, c'est François Richer. C'était Dalia ce soir à la technique. Et vous avez rendez-vous tout de suite dans À Voix Nue grâce à Caroline Brouet avec un peintre et navigateur. Il s'appelle Titouan Lamazou. Il est interrogé ce soir et tous les soirs sur France Culture.
Titouan Lamazou, bonjour.
Bonjour.
On se retrouve pour le deuxième épisode de nos avoinus qui en compte 5, je le rappelle. Et j'ai intitulé ce deuxième épisode « C'est la mer qui prend l'homme ». Et il se trouve que je l'avais intitulé comme ça, avant même de savoir que vous aviez fait aussi, dans vos très nombreux ouvrages, un livre sur Renaud.
Sur Renaud, oui.
Donc, comme quoi, oui. grands esprits.
Oui, vous... c'est un... un petit peu un ovni dans mes publications.
Mais oui, je ne m'attendais pas.
Un jour, j'ai rencontré au hasard Renaud dans un bar, n'est-ce pas ? Et il m'avait dit, j'aime beaucoup. Alors, j'ai été très surpris parce que j'étais un grand fan de Renaud depuis ses premiers disques. Et Renaud m'a dit, j'aime beaucoup ce que tu fais, etc. Et j'aimerais bien que le prochain album soit toi qui en fasses les visuels, l'illustration. Alors, ça, moi, j'étais tout à fait honoré. Il a fallu que j'attende une dizaine d'années, parce que c'est une période creuse de Renaud. Et un jour, il m'a rappelé, j'ai eu un message qui a duré une plombe sur mon répondeur, en me disant, voilà, je sors un nouvel album qui s'appelle Boucan d'enfer, et dont j'ai fait le livret, et on en a fait un livre.
Vous allez me la chanter, la chanson. C'est la mer qui prend l'homme.
Ça, je risque pas de m'aventurer. J'ai l'oreille des casseroles, et donc... C'est pas mon mode d'expression favori.
Elle vous a pris, non pas un mardi, mais un jour du début des années 70, je crois pour être précis, c'est en 73, vous avez 18 ans. On vous a quitté à la fin du premier épisode, vous étiez parti en bateau-stop faire la route des Alizés, donc des Baléares aux Antilles en quelque sorte. Et ça a été le début d'une longue aventure de navigateur. On commence par le début, si vous le voulez bien. Vous débarquez à Sainte-Lucie après 33 jours de mer.
Oui.
Alors déjà, quel souvenir avez-vous de ces 33 jours de mer ?
Horrible.
Et qu'est-ce qui s'est passé après ?
Horrible, parce que j'avais été embarqué par un type avec qui j'ai cohabité, non, n'est-ce pas, à deux pendant...
Pendant
33 jours, ben, c'était pas exactement le cas. J'ai posé mon sac au premier port d'arrivée, à Sainte-Lucie, où j'ai séjourné un certain, quand je parle de que je suis un artiste vagabond, c'était vraiment une époque vagabonde où je savais pas trop où j'allais, ce que j'allais faire. J'avais pas du tout dans l'idée d'être un navigateur professionnel. J'avais apporté dans mon sac de voyage quelques gouaches et quelques carnets. Je dessinais comme ça, mais sans savoir, sans but précis. Et je proposais pour vivre. À l'époque, il y avait pas beaucoup de tourisme, mais il y avait quelques terrasses de café où je pouvais faire des portraits de gens, et je faisais des portraits de navires, et puis je proposais mes services de mousse sur les navires qui passaient dans le coin, et c'est comme ça que j'ai été embarqué à un moment donné à Sainte-Lucie par un navire, ça ne vous dira rien, il s'appelait le Vendredi 13 et qui appartenait à Jean-Yves Terlin, qui était un marin connu de l'époque, qui est devenu par la suite un de mes concurrents favoris, type que j'aime beaucoup, et c'est la première fois que je montais sur un bateau qui était un bateau de course.
C'est un trois-mâts.
C'était un trois-mâts qui avait été reconverti en bateau de croisière, et moi on faisait du charter à l'époque, et j'étais un multitâche à bord, un débutant. Et il se trouve qu'à cette époque-là, donc j'ai vagabondé un petit peu, on a navigué dans toutes les Antilles, depuis les Grenadines jusqu'aux îles Vierges pendant quelques mois. Et il se trouve qu'il était venu pour moi, je me rappelle avoir fêté mes 20 ans sur le Vendredi 13, et à l'époque, il y avait une chose à laquelle on n'échappait pas, c'était le service militaire. Et j'ai reçu une convocation pour venir faire mes 3 jours. Dans mon idée, à l'époque... de Babacool, vagabond des mers du Sud, n'est-ce pas ? C'était pas du tout dans mes plans. Je me suis dit, je vais pas rentrer. Et là, c'est à cette époque-là que Jean-Yves Terlin, le propriétaire du bateau, et son co-skipper Yvon Fauconnier, qui était aussi un skipper connu qui a remporté la Transat, par exemple, etc. Ils m'ont dit, écoute, Titouan, tu peux pas faire ça, tu vas devenir insoumis. C'est pas déserteur, mais enfin, tu pourras pas rentrer en France pendant 15 ans, tu vas être recherché, etc. Nous, on a un copain auquel la Marine nationale offre les services de 4 appelés tous les ans, gratuitement, pour l'aider sur son bateau. Et on va lui proposer ta candidature parce qu'il choisit lui-même ses appelés et souvent sous recommandation de ses amis. Et ce marin, c'était Éric Tabarly. Éric Tabarly, à l'époque, était quand même considéré comme... Il y avait De Gaulle et Tabarly en France. Hein. C'était un peu ça. Quoi. C'est-à-dire que c'était le grand marin français. Et évidemment, je suis rentré en France, à bord du Vendredi 13 d'ailleurs, pour faire mes 3 jours. J'ai été choisi par Éric Tabarly qui ne m'avait jamais vu. Et c'est comme ça que je suis
entré. C'est ça qui a changé votre vie, en fait.
Ça a changé une partie de mon parcours, en tout cas. Parce que je n'imaginais pas, même si j'avais navigué sur quelques bateaux, que j'allais devenir un professionnel de la navigation. Mais c'est venu bien plus tard. Et Éric Tabarly nous a... nous étions un équipage de 11 personnes. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer un petit peu ce que j'appellerais la famille de la vie. C'est-à-dire que c'est à ces occasions, avec ces navigations, que j'ai rencontré Florence Artaud, Philippe Poupon, le docteur Jean-Louis Etienne, qui était le docteur du bord. En fait, des gens que je n'aurais pas imaginé pouvoir croiser dans ma vie, et qui sont devenus les amis de ma vie, quoi. Enfin, c'est ma famille, ma seconde famille. Et Éric Tabarly nous a embarqués pour un voyage tout à fait merveilleux. C'était un tour du monde. C'était le plus grand, enfin le plus réputé capitaine de son temps à l'époque en France, mais c'était aussi le grand spécialiste pour prendre son temps. C'est-à-dire qu'on est parti, on a fait vraiment le tour du monde par le chemin des écoliers. Le prétexte était de rejoindre Los Angeles pour prendre le départ d'une course à laquelle on a été empêché de prendre le départ pour des questions techniques. Le bateau correspondait pas aux règles de la course. Et par exemple, à Los Angeles, il a dit, bon, s'ils veulent pas de nous, on va rejoindre la Nouvelle-Zélande pour rejoindre la 3e étape de la course autour du monde qui s'appelait la Whitbread à l'époque. Mais pour rejoindre la Nouvelle-Zélande, on a mis, je sais pas, 6 à 9 mois en égrenant toutes les îles du Pacifique. Et c'est là d'ailleurs que j'ai participé, qu'il avait découvert qu'il avait un équipier artiste. Et c'est ainsi que j'ai participé à ma première publication.
Son guide de manœuvre.
Le guide de la manœuvre que j'ai réalisé avec lui. Lui, à la table à cartes, écrivait son texte et moi, je faisais des petits croquis que je lui soumettais. Et après, je me suis arrêté 3 mois à Tahiti pour réaliser les rendus et j'ai retrouvé l'équipage un peu plus tard en Nouvelle-Calédonie. Et puis, nous avons pris le départ de la 3e étape de la course autour du monde de l'époque. Et je suis resté quasiment 2 ans et demi à bord de ce navire. Et quand même, à l'arrivée à Portsmouth de la course, s'achevait pour moi mon temps prolongé du service militaire, surtout de marin d'Éric Tabarly. On était très loin. C'est un marin qui était le moins autoritaire qui soit et qui était un type que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il avait une qualité immense qui était une absence totale d'a priori. Sur les gens, on aurait pu garder le souvenir, en tout cas, de ce personnage comme un officier de marine rigide. Pas du tout, son équipage, de toute façon, qui était tous des, on pourrait appeler ça des bénévoles. Enfin, on n'était pas payés. À l'époque, c'était vraiment des vagabonds, quoi. Tous autant qu'ils étaient. À l'époque, c'était pas des marins professionnels comme on peut voir aujourd'hui. Mais je me suis dit, à l'issue de ce long voyage à bord du bateau d'Éric Tabarly, je me dis, bon, pour ce qui est de la mer, c'est bon. Je peux pas faire mieux que d'avoir navigué sous les ordres du capitaine le plus prestigieux. Et j'ai posé mon sac à terre et j'ai eu dans l'idée de m'installer.
Ma terre ferme
et de m'installer dans un atelier, comme il se doit. Pendant quelques années, j'ai fait plusieurs tentatives infructueuses de sédentarisation. parce que si c'est jamais arrivé, c'est à cette période-là que j'ai pris ma compagne de l'époque et la mère de ma fille. Nous sommes partis pendant un an dans le Haut Atlas marocain, dans ce retour au Maroc, mais qui a engendré deux ouvrages que nous avons réalisés là-bas.
Réunis sous le titre 11 lunes au Maroc.
Réunis, oui, ça s'appelait Sous les toits de terre et un hiver berbère, qu'on a réuni récemment, on a réédité sous le nom de 11 lunes au Maroc chez Gallimard. Et également, j'avais publié, alors le premier livre que j'ai réellement publié sous mon nom, c'était un roman. Un roman, toujours grand lecteur, j'ai toujours eu des velléités d'être écrivain, ce que je ne suis pas, n'est-ce pas? Enfin, il se trouve que j'ai écrit un roman inspiré par les récits que j'avais consignés pendant mon séjour dans le Haut Atlas. Et ce roman, je l'ai envoyé à l'époque par la poste, comme on faisait à l'époque, dans toutes les maisons d'édition. Et il se trouve que De Noël a retenu mon livre. Et le lecteur à l'époque m'avait dit, on pense que dans 4 ou 5 romans, vous nous ferez des best-sellers, vous avez quelque chose. Et puis, je n'en ai jamais écrit d'autres.
Et vous avez arrêté.
Et j'en ai jamais écrit.
Vous avez arrêté aussi, Titouan Lamazou, parce que vous êtes parti ou reparti, de fait, à peu près vers 1985. J'aime bien les dates sont à peu près, mais là, c'est je crois que c'est à peu près ça.
Oui,
1985,
ça,
vous partez comme voilà. Coureur d'océan.
Voilà. Et c'est un lien d'ailleurs avec ce roman, parce que. À un moment donné, dans une de mes ultimes tentatives de sédentarisation, je me suis aperçu, j'étais dans l'Hôte à l'époque, j'avais un atelier là-bas, et je m'aperçus que je dessinais des cocotiers, des bateaux et des horizons maritimes. Je me suis dit, j'ai pas fini avec cette histoire. Et j'ai appelé un copain, un de vos confrères journalistes de l'époque, je lui ai demandé si le Box Challenge, qui était une course qui avait été organisée précédemment, allait être renouvelée. Il m'a dit oui. Donc j'ai posé mes pinceaux, et je suis parti chercher des sponsors. Et il se trouve que, petite anecdote, il se trouve que j'avais rencontré un sponsor à l'époque qui est devenu mon sponsor principal du bateau Écureuil d'Aquitaine, avec Aquitaine-Bordeaux, c'était Jacques Chaban-Elmas, Écureuil c'était les caisses d'épargne à l'époque.
Et il se trouve que les noms de vos bateaux.
Voilà, et il se trouve que le responsable de la communication à l'époque de Écureuil avait lu, un des rares lecteurs, parce qu'on peut y avoir échappé, hein, mais il avait lu mon roman, il avait beaucoup apprécié. Donc ce roman, il a servi
finalement
à quelque chose, c'est que j'ai trouvé un sponsor pour m'engager dans ma première course, comme capitaine, une course autour du monde en solitaire, cette fois-ci avec des escales, qui partaient de Newport aux États-Unis, Cape Town, Afrique du Sud, Australie, et Sydney, et puis Rio de Janeiro, et retour à Newport.
Et ça, vous l'avez gagnée, celle-là?
Alors, non, celle-là, je ne l'ai pas gagnée. Et si on m'avait dit au départ de ma première course, quand même, comme jeune skipper inexpérimenté, j'allais arriver second au classement général de l'épreuve, j'aurais été, mais fou de joie.
C'était pas le Cape Town-Sydney, celle-là?
Ça, c'est une des étapes. J'ai remporté une des étapes.
C'est compliqué, votre histoire. Vous êtes arrivé second dans le Box Challenge.
Après, vous avez été vainqueur,
ça sera plus simple.
Quatre étapes dans une course. Et il se trouve que si on m'avait annoncé que j'arriverais second, j'aurais été fou de joie. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Quand je suis arrivé à Newport à l'issue de cette longue course, j'ai été extrêmement humilié de ne pas arriver premier. Et c'est devenu extrêmement présent. C'est-à-dire que je suis rentré dans la peau d'un coureur d'océan et d'un sportif. De haut niveau. Et je trouve d'ailleurs que cette période de ma vie qui a été très courte, très médiatisée. Les gens m'ont connu parce que j'ai remporté surtout le Vendée Globe quelques années plus tard.
On va en parler, bien sûr, quand même.
Mais j'ai vécu cette période d'une façon assez agréable. Parce que, en fait, la vie d'un sportif de haut niveau, c'est pas compliqué, hein. Il n'y a pas de doute. On a un objectif, c'est de franchir une ligne d'arrivée en tête. Et lorsque j'ai été second dans la première course à laquelle je me suis inscrit, je n'ai plus pensé qu'à devenir premier de la suivante.
Et la suivante,
c'était au cours de ces entre-marins de cette épreuve, le Box Challenge, que lors des escales dans les ports, nous avions imaginé organiser une course sans escale. Et c'est le vainqueur de cette épreuve, le BOC, qui s'appelait Philippe Gentot, qui a organisé une course qui s'est appelée le Vendée Globe, dont le départ était donné 4 ans plus tard. J'ai passé 4 ans avec un seul objectif, c'est de franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe en tête. Et c'est une vie relativement confortable. Voilà, parce qu'on est, quand on est un artiste, par exemple, il n'y a pas un moment quand vous peignez un tableau où vous n'êtes pas envahi par le doute, vous avez envie de le mettre à la poubelle, vous ne savez pas où vous allez, il y a plein d'interrogations. Alors que là, la vie d'un sportif, il n'y a pas d'interrogation. C'est simple.
Voilà, moi je vais faire une petite note de bas de page que vous allez contrôler, bien sûr. Hein. Mais le Vendée Globe, donc, c'est une course à la voile en solitaire, organisée tous les 4 ans, sans escale et sans assistance.
On ne savait pas à l'époque qu'elle allait être organisée tous les 4 ans. C'était le Vendée Globe.
Autour du monde, en partant des Sables d'Olonne.
Et en revenant aux Sables d'Olonne.
Et c'est quand même, Titouan Lamazou, l'une des épreuves sportives les plus extrêmes. En tous les cas, c'est considéré comme l'Everest des mers, donc ça dit quand même pas mal de choses. Et j'aimerais vous demander si vous êtes d'accord, pourquoi, à votre avis, c'est considéré comme, puisque vous l'avez faite, vous, cette course?
Bah, à l'époque, si vous
ça
voulez...
Ça met vraiment à l'épreuve un certain nombre de...
À l'époque, nous savions, nous, ceux qui nous... On s'est inscrits dans cette épreuve, il y avait à l'époque Loïc Perron, Philippe Poupon, Jean-Yves Terlin... qui était mon ancien capitaine, et un certain nombre de marins. Nous savions que c'était une épreuve difficile dans la mesure, sans escale, on connaissait tous quasiment les 40e rugissants, mais par petits tronçons, comme ça, de course avec escale. Et on savait que ça allait être difficile. D'ailleurs, personne n'aurait affirmé qu'on allait arriver au bout de cette course à l'époque.
Il n'y avait pas aussi autant de mesures de sécurité que maintenant, hein.
Oui, il n'y avait pas de point de passage, c'était une autre époque. Il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de... On était assez tranquille. Ce qui a changé avec aujourd'hui, c'est pas... les bateaux vont beaucoup plus vite, ils vont quasiment deux fois plus vite que nous, ils sont plus sûrs. Mais ce qui a changé surtout, c'est la communication. À l'époque, on communiquait avec la Terre par la radio. Et la radio, moi qui avais appris le métier auprès d'Éric Tabarly, qui était peu disert, qui était peu bavard, ben moi j'avais pris le pli, et ma radio elle marchait pas souvent. Quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un skipper qui fait le Vendée Globe, s'il envoie pas une vidéo directe chaque jour, il est pénalisé. À l'époque, on était vraiment solitaire. Voilà. Bon, il se trouve que c'était une course, surtout qui a eu... un impact imprévu, c'est-à-dire 8 jours avant le départ du Vendée Globe, du premier Vendée Globe, personne n'était au courant. Et il y a quelque chose, et même ils étaient très inquiets dans la cour, parce qu'ils disaient, ils vont partir, et puis non, ils vont partir 4 mois, 5 mois, puis on va les oublier, quoi. Alors ils étaient, les organisateurs de la course, essayaient de trouver tous les moyens possibles pour essayer de faire vivre cette course. Il se trouve que dès le premier jour, cette course a pris auprès du grand public. Et à l'arrivée, c'était totalement imprévu. Enfin, on m'avait dit que ça avait beaucoup de succès, tout ça. Il y avait 100 000 personnes. Je suis arrivé à 2h du matin. Il y avait 100 000 personnes sur le quai. Et c'est devenu un événement qui a toujours, jusqu'à aujourd'hui, c'était la 10e édition cette année du Vendée Globe.
On est en 2025,
a toujours gardé cette même réputation de ces comparatifs qui sont heureux ou pas, d'Everest de la mer, du défi le plus difficile pour les marins, etc.
Oui, parce qu'il y a l'épreuve de la solitude, la résistance physique et mentale, c'est très technique, c'est ce que j'ai lu, hein, et que vous traversez en plus les océans les plus redoutables.
Oui, voilà, moi ce que j'avais pas du tout, je craignais pas du tout de côtoyer les éléments. C'est pas ça qui me faisait peur du tout. C'est-à-dire que la mer, on va avec, on va pas contre. Mais moi, ce qui était... qui m'a habité pendant cette épreuve du premier jour, mais c'était déjà depuis 4 ans, du premier jour jusqu'au dernier, ce qui m'effrayait, c'était mes concurrents. Moi, je voulais devenir premier. Enfin, je voulais gagner. Et j'ai été vraiment habité par ça. Et je pense que si j'ai remporté le Vendée Globe, c'est parce que c'était moi qui avais le plus envie de le gagner. Voilà, que je m'étais préparé mieux que les autres, probablement pour cette issue. Et il se trouve qu'à l'issue du Vendée Globe, quand j'ai finalement... fini par franchir cette ligne d'arrivée en tête, eh bien ce sentiment de ce besoin d'exister par la compétition m'a totalement abandonné. Et j'ai raccroché mon ciré, et en clair j'ai repris mes pinceaux. J'ai eu un moment de flottement quand même à ce moment-là, que j'ai pas bien vécu, c'est qu'il m'était arrivé une chose qui était tout à fait improbable, Parce qu'en général, bon, quand on gagne une course au large, c'est pas comme si on gagnait le championnat du monde de football. On est beaucoup moins. La notoriété que cela engendre était très relative. Mais là, c'était pas le cas. Je me suis retrouvé tout d'un coup avec une notoriété importante, tout au moins en France, et que j'ai assez mal vécu. Et on n'est jamais préparé pour ça. On passe 4 ans à préparer un truc, c'est franchir une ligne d'arrivée en tête. Mais on ne prépare pas du tout ce qu'il y a derrière. Et j'ai eu un petit moment de flottement qui fait que j'ai un petit peu prolongé. J'ai été poussé de partout, enfin par moi-même aussi, pour prolonger cette brillante carrière de navigateur professionnel. Mais en fait, je n'avais pas du tout envie. Et j'ai fini par reprendre mes pinceaux.
Vous n'êtes pas arrêté au Vendée Globe. Il y a quand même eu cette deuxième course mythique aujourd'hui, qui est la Route du Rhum.
La Route du Rhum que j'avais remportée en monocoque, ce qu'on appelle la classe des IMOCA aujourd'hui.
Course transatlantique en solitaire à la voile qui relie Saint-Malo, voilà, en Bretagne, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Et vous l'avez remporté en 1990, battre Loïc Perrault.
En monocoque, oui, parce que il y avait à l'époque, et toujours d'ailleurs, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait un championnat du monde des skippers. Un peu comme l'ATP du tennis, on est premier mondial, ceci, cela. Il y avait 600 skippers ou 700 inscrits dans ce championnat du monde. Mais c'est pas comme le tennis, il n'y a pas un match tous les 15 jours en voile. Hein. On a une épreuve de course au large, ou deux maximum par an, ce qui fait que c'est sur 4 ans. Et moi, j'ai accumulé le plus de points sur 4 ans. Et il se trouve que, à l'issue du Vendée Globe, Loïc Perrault était arrivé second derrière moi. Il avait engrangé pas mal de points aussi. Et il se trouve que si Loïc remportait la Route du Rhum,
Il devenait champion du monde. Et ça,
non. Alors j'ai pris le départ de la Route du Rhum pour empêcher Loïc de me ravir la place. Et il se trouve que j'ai remporté dans la Route du Rhum en monocoque, que Loïc a dématé. Donc,
il a dû abandonner, en fait.
Oui, il a dû abandonner. Bon, mais cette victoire dans la Route du Rhum a été un petit peu... Ma victoire a été un peu occultée par celle de Florence Artaud, qui a gagné au classement général et qui était quand même sur un mode absolument...
Elle a remporté la course en multicoque, elle.
En multicoque.
Et c'était la première femme à remporter une course transatlantique.
Voilà, et c'est la dernière, d'ailleurs. Hein. Et c'était une bonne amie.
Elle était vainqueur de la Route du Rhum, voilà, en 1990, donc, sur son trimaran Pierre Ier.
Voilà, et là, c'était vraiment ma dernière course. Et là, j'ai raccroché le ciré pour reprendre mes
pinceaux. Non, dis-toi, la Madou, parce qu'avec Florence Artaud, qui est devenue une amie, vous avez créé en 1992 le trophée Jules Verne.
Oui, avec Florence Artaud, on a créé le trophée Jules Verne, parce que déjà, à l'époque, les courses commençaient à être réglementées. Ce qu'on appelait la course open, c'est-à-dire la course ouverte, libre. Il y avait plein de règlements et tout ça, etc. Et puis surtout des règlements de taille. On rêvait tous de commander des grands navires. Et à l'époque, il n'y avait plus d'épreuves qui acceptaient des navires de plus de 18 mètres. Quoi. Et donc on a créé avec Florence le trophée Jules Verne, qui récompensait le premier navigateur qui accomplirait le tour du monde en moins de 80 jours. Et se trouve, si Jules Verne se passerait de main en main et récompenserait le recordman absolu du record. Aujourd'hui, c'est quelques 30 ans plus tard, on est passé à 40 jours. Et moi, j'avais construit à l'époque, fait construire une goélette de 40 mètres, un énorme bateau, le plus gros budget du yachting de l'époque, sinon du XXe siècle, et qui a fait naufrage 15 jours après son lancement. On avait dépassé le seuil d'innovation autorisé, qui fait que là, j'ai vraiment raccroché mon ciré.
Cette fois, c'était vraiment...
Je pense que c'était la fin de la navigation. C'était la course que je n'aurais pas dû faire, parce que je n'avais pas envie de le faire, en plus. Voilà.
C'est la course de trop.
Oui, il fallait ça pour que je retourne à mes pinceaux.
Au final, Titouan Lamazou, cette course, ou ces courses au large en solitaire, ont représenté une parenthèse dans votre vie de peintre, mais... Qu'est-ce que vous en retenez de la mer?
C'est-à-dire que cette mer-là, moi je vous ai parlé de mon état d'esprit quand j'étais un coureur professionnel. Dès que j'étais un coureur professionnel, c'est-à-dire que la mer qui m'a attiré au départ, parce que c'était d'abord un inconnu, et que j'étais curieux de voir ce qu'il y avait derrière les horizons maritimes, j'étais curieux de connaître ce monde ce qu'on appelle ceux qui vont en mer. Il y a les vivants, les morts et ceux qui vont en mer, que je ne connaissais pas du tout. J'étais très attiré par ce monde. Et puis c'était un moyen aussi de mouvement, de voyage, qui est lent, qui est doux. Il y a rien de plus agréable aujourd'hui encore. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus agréable que d'aborder un pays par la mer, surtout avec un voilier, parce qu'on le fait doucement. C'est très, très,
sans bruit.
C'est très naturel, sans bruit, sans décalage horaire. Et j'ai repris cette mer-là après mon bref parcours de coureur d'océan. Je continuais à naviguer, à voyager, pas forcément en bateau, de la même manière, mais en étant dépourvu d'esprit de compétition.
J'ai rassemblé ce que disaient vos concurrents à l'époque, mais ce que disent les coureurs depuis, en particulier sur le Vendée Globe, mais sur d'autres courses, et souvent ce qu'on évoque, c'est en dehors des meilleurs moments, du côté sensuel de la mer, par exemple pour Isabelle Autissier, mais les nuits sans sommeil, les tempêtes, donc le vent, le dialogue intérieur de solitaire en mer, la technique, les défis, la fatigue, le rapport au corps, la peur quand même. Est-ce que tout ça vous parle ou est-ce que vraiment, non, c'est très loin de vous?
C'est loin, je m'en souviens pas énormément. Je sais qu'il y avait une peur présente du début à la fin, surtout dans la période des 40e, où on passait 40 jours quand même dans ces mers qui sont plutôt hostiles. Il n'y avait pas de règles à l'époque de point de passage. On doublait des icebergs tous les 3 jours.
C'est là d'ailleurs que votre ami Philippe Poupon avait
chaviré.
Les images sont restées dans les annales de la course.
Voilà, et bon, il y avait cet aspect-là, mais pour moi, je pense que je le disais déjà à l'époque, je pense que le sentiment de solitude il était plutôt choisi que subi, hein. Et d'autre part, je pense que j'ai jamais été moins seul que pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de gens qui se préoccupaient de savoir où j'en étais, qu'est-ce que je faisais, etc. Le reste de la vie s'est passé beaucoup plus en solitaire. Donc c'était pas cet aspect-là. C'était vraiment. Et puis j'étais quand même, j'ai même été fouillé dans l'INA et dans les quelques peu de témoignages audiovisuels qu'on peut avoir à l'époque, ou même audio. Il y en avait moins qu'aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, à l'arrivée, j'étais extrêmement surpris de l'intérêt que les gens avaient manifesté pour cette épreuve et d'être... Moi, j'avais l'impression de faire un truc absolument normal. J'étais préparé pour ça. J'avais toujours eu le sentiment, et je l'ai toujours d'ailleurs, qu'on n'a pas un endroit où on soit plus en sécurité dans le monde que lorsqu'on est seul sur un bateau au milieu de l'océan, pour peu que le bateau soit un bon bateau, qu'on sache s'en servir, quoi, faire un minimum. Et parce que pour la bonne raison, c'est que l'ennemi de l'homme, comme du reste du vivant, c'est l'homme. Et là, on est tranquille.
Et donc, vous avez repris vos vagabondages artistiques et votre vie solitaire de peintre. C'est ce que nous verrons dans l'épisode 3, Titouan Lamazou, la peinture vagabonde. À demain, merci.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Titouan Lamazou, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Benjamin Troncin et Benjamin Reyes, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.
France Culture. Le chanteur et écrivain Gaël Faye partage et commente avec nous les poèmes qui accompagnent sa vie.
Le propre de la poésie, c'est d'exister à voix haute. C'est des prières, en fait.
L'instant poésie de Gaël Faye à 21h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le Crédit Mutuel et France Inter donnent le la pour la fête de la musique.
Rendez-vous en direct de l'Olympia pour le concert de l'année.
Avec Benjamin Biolay, Clara Luciani, Giorgio
et Yamé.
La fête de la musique à l'Olympia,
c'est le samedi 21 juin sur France Inter à partir de 20h.
France Inter, une radio de Radio France.
Vous écoutez France Culture.